Chapitre 19. Avançant avec prudence, Gabriel longea la coursive qui dominait l'ensemble des génératrices, sous les entrelacs de poutrelles et la charpente métallique du toit. À travers les longues vitres, il percevait les eaux noires du lac glaciaire bordé par la route. Leur agresseur avait eu tout le temps de préparer son embuscade. Son regard buta alors sur la phrase peinte en rouge, sur le mur à sa droite, entre deux colonnes de béton. « Je sais où elle est. » Gabriel frissonna. Dessous, un dessin de la même couleur, d'environ 50 centimètres, avait été tracé avec soin. Il reconnut une représentation agrandie du pendentif porté par Julie. Ce livre à la couverture parée d'ornements, de courbes élégantes et entrelacées. Il se tourna vers Solène, appuyé contre la rambarde. « Explique-moi. » Elle peinait toujours à reprendre son souffle.
« Mi-2017. Ton ex-femme a reçu un courrier anonyme envoyé depuis Saint-Gervais. Il contenait une page de roman arrachée. Une phrase avait été constituée à partir de lettres entourées dans cette page. Page 112, je m'en souviens encore. Le roman, c'était « Dix petits nègres » d'Agatha Christie. Et ça disait « Les clés de l'intrigue se trouvent à l'usine du lac Miroir ». On est donc venu ici, on a découvert ce que tu vois là. Les autres inscriptions plus loin sur le mur sont arrivées au fil du temps. Avril 2018, février 2019.
Gabriel avança de quelques pas sous le choc. Il comprenait l'empressement de Paul à se débarrasser de lui, à éviter qu'il ne voie Corinne, à ne pas lui fournir le reste du dossier. Entre d'autres colonnes de béton étaient notées, les uns sous les autres, une série de mots. Il lut de haut en bas. Ressassé, Laval, Noyon, Abat, Xanax. Qu'est-ce que ça signifie ? Solène s'approcha. Elle toucha du bout de l'index le dernier mot. Son doigt se couvrit de rouge.
Xanax n'y était pas. Il vient de l'ajouter.
Gabriel renifla. Peinture fraîche.
Ce sont des palindromes. Expliqua Solène, des mots qu'on peut lire à l'envers comme à l'endroit. On ne sait pas pourquoi leur auteur est venu ici à plusieurs reprises pour les écrire, ça n'a aucun sens. Ressasser est un verbe, Laval et Noyon sont des noms de villes, Abat est un groupe de musique. Quant à Xanax, c'est un anxiolytique, il me semble.
Vous avez essayé de mélanger les lettres, de reconstituer une phrase?
Ça ne donne rien. Pas étonnant si la liste est incomplète.
Empreinte?
Que dalle. On s'est même branché auprès des polices de Laval et Noyon. On a posé des questions sans succès. À mon avis, ces palindromes dressent le profil d'un individu. Un type qui aime Abat, a un rapport avec Noyon et Laval. Peut-être qu'en plus il est dépressif ou frappé du ciboulot. Bref, chaque mot nous ferait faire un pas vers lui. Ce genre de conneries.
Gabriel relut la liste. Ça correspondrait au profil du kidnappeur, selon toi ?
Va savoir.
Il se décala vers la droite, observa de nouveau la phrase. Elle lui glaça le sang. « Je sais où elle est. » Il a écrit ça il y a environ 3 ans, tu dis ? Et il se pointe aujourd'hui au lendemain de la découverte du corps au bord de l'Arve pour nous livrer un de ses indices. Gabriel serra les poings, dire qu'ils avaient failli lui mettre la main dessus. Solène s'était adossée à la rambarde.
« Putain, il m'a pas loupé. » Tu fais quelle gueule ?
On dirait que tu t'es fourré la tête dans un micro-ondes. Elle se massa délicatement les yeux.
Il y a autre chose que tu dois savoir. Ton ex-femme a reçu 5 autres courriers anonymes, postés dans des villes différentes, Chamonix, Cluses, Annecy. On suppose que c'est le même individu, quelqu'un du coin visiblement.
Gabriel sentit son cœur s'emballer. Encore des pages de romans ?
Oui. Des vieux policiers à énigmes, Conan Doyle, Agatha Christie, Maurice Leblanc, les cadors du polar, les maîtres de la manipulation et des faux-semblants. Et pas n'importe quelle page, on a vérifié, toujours celle qui précède la révélation finale.
Un tordu instruit, songea Gabriel. Louise adorait ce genre de roman.
On sait.
Toujours la technique des lettres entourées.
Oui. au stylo à bille bleue, les lettres formant toujours le même type de phrase quand tu les mets bout à bout. Je sais qui est le responsable. La réponse est dans ces lignes. C'est à cause de votre ignorance si elle souffre. Pour l'aiguille creuse de Leblanc, il avait aussi souligné un passage. Pourquoi ai-je peur? C'est comme une oppression. Est-ce que l'aventure de l'aiguille creuse n'est pas finie? Est-ce que le destin n'accepte pas le dénouement que j'ai choisi? Elle connaissait les phrases par cœur. Gabrielle en eut la chair de poule. Face à ces étranges missives, pas difficile d'imaginer l'état psychologique de Corinne. Il se rappelait son regard à la brigade, son attitude prostrée, la peur dans ses yeux. Ses envois l'empêchaient de penser à autre chose qu'à Julie. Il lui interdisait l'oubli. On a bien sûr jeté un œil sur le listing client de la librairie de Saga, mais là aussi, ça n'a mené nulle part. Encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre dans mon coin. La justice, quant à elle, n'a pas établi de lien entre cette affaire de pages arrachées et de palindromes et l'enlèvement de Julie. Les dossiers n'ont pas été rapprochés.
C'est pas vrai.
Le dossier de disparition était déjà classé depuis une bonne année au moment des faits. Et le prénom de Julie n'est pas cité. On a juste des L. L'auteur a très bien pu dessiner le pendentif à partir des tracts distribués à l'époque. Corinne n'avait pas d'autre option que de déposer plainte contre X pour harcèlement. Tu sais ce que ça veut dire. Le dossier n'a jamais été prioritaire et on l'a glissé sous la pile de toute cette délinquance qui gangrène la vallée.
Gabrielle ne trouva pas les mots. C'était aberrant.
Je sais, Gabrielle, je sais. Mais la justice est une vieille dame. Elle ne se fait pas, elle ne se défait pas d'un claquement de doigts. Il faudrait presque attraper le type qui nous nargue, qu'il donne des éléments forts sur la disparition de ta fille pour que, éventuellement, le juge Cassoret accepte de ressortir le dossier du placard. Malgré tout, Paul se bat. Il n'a rien lâché. Tu le connais. Dès qu'il a un moment, y compris sur son temps libre, il se penche sur cette affaire. Il préfère traîner au bureau que chez lui. Ce n'est un secret pour personne que ça ne va pas fort entre lui et Corinne.
Gabrielle ne dit rien, mais il comprenait tout à fait l'impossibilité pour Corinne de se reconstruire tant qu'elle ignorerait le sort de Julie.
Enfin bref, Paul sait pertinemment, comme nous tous, que les dossiers sont liés et il cherche. Crois-moi, il cherche.
Gabrielle revoyait Paul dans son bureau ou au chalet. Ses soupirs, son air de vieil escargot mollasson, juste des apparences. Ses instincts de chasseur étaient toujours là, affûtés comme au premier jour. Il avait bien caché son jeu. Solène désigna le mur.
Le corbeau est un joueur. Quand il parle de clé de l'intrigue, il assimile tout ça à une fichue énigme à résoudre, comme dans ses fameux romans policiers. On dirait qu'il nous défie, nous clame « Serez-vous plus fort que moi ?» En l'occurrence, si les palindromes n'ont encore conduit à rien, le dessin du pendentif, lui, nous a apporté des faits nouveaux. C'est-à-dire...
Les paupières de Solène étaient désormais si gonflées que son champ de vision se résumait à deux fentes horizontales.
Suite à la découverte de ce dessin, on a voulu en savoir plus sur cet objet. Louise nous a raconté que Julie lui avait dit avoir acheté ce pendentif dans une bijouterie du centre de Saga, l'Étoile d'Or. Elle ne se rappelait plus la date, mais en fouillant dans des albums photos détenus par ton ex-femme, il apparaît pour la première fois autour du cou de ta fille en septembre 2007. La photo précédente de Julie remonte à avril 2007, et elle ne le porte pas. C'est donc probablement entre ces deux dates qu'elle l'a acquis,
durant l'été 2007.
Ouais. En 2018, la bijouterie n'existait plus, mais Paul a tout fait pour interroger la proprio de l'époque. Elle a affirmé n'avoir jamais possédé ni vendu ce genre de pendentif dans son magasin. Julie avait vraisemblablement menti.
Gabrielle n'avait jamais prêté attention à ce bijou. Julie en achetait tout le temps. Il serra la rambarde, fixa les gigantesques turbines en contrebas. Quel motif peut pousser une jeune fille à mentir sur l'origine d'un bijou?
Un vol? Elle l'aurait trouvé et n'aurait rien dit à personne? Peut-être qu'il avait de la valeur. Ou alors c'était un cadeau qu'elle voulait faire passer pour un achat.
Une histoire d'amour, je n'en sais rien.
Toujours est-il que... Et d'un, l'auteur de ce dessin a éclairé un point qu'aucun d'entre nous n'avait vu. Et de deux, Julie avait des secrets qu'elle n'a révélés à personne.
Et même ces éléments n'ont pas suffi à relier le dossier de la plainte contre X à celui de ma fille. Elle secoua la tête et essuya ses joues larmoyantes.
Le juge Cassoret est un matérialiste, il veut des preuves. Selon lui, 10 ans après, la mémoire de la commerçante pouvait la tromper.
du bidon.
Oui. Mais cette découverte m'a toujours porté à croire que cette phrase dit vrai,
fit-elle en pointant le mur.
L'ordure qui nous a balancé de la lacrymo en pleine gueule sait réellement où est ta fille. Sinon, pourquoi s'acharner ainsi? Est-il impliqué? Complice? Simple témoin? En tout cas, il sait. Ce salopard sait. Il est du coin et il joue avec nous, avec Corinne et Paul. Il veut les rendre fous.
Gabriel manipula son nouveau téléphone portable. Il photographia les deux pans de mur. Et comme par hasard, Eddie Lecointre a bossé à la centrale, fit-il.
On a fait le rapprochement, figure-toi. Mais s'il était l'auteur de ces messages, tu crois qu'il aurait été stupide au point de venir ici, sachant qu'on pense systématiquement à lui dès qu'une connerie est faite à Saga?
Je ne le connais pas.
Tu l'as connu. Tu lui as collé au basque, pire qu'un morpion. Ce mec a le QI d'une buse. Il n'est pas du genre à faire des énigmes ni à lire des romans policiers. En revanche, peut-être que le type qui écrit ça veut nous orienter sur la piste Lecointre pour nous embrouiller, nous voir patauger. Ça fait partie de son jeu. À l'apparition de ces énigmes, on est d'ailleurs revenu vers Lecointre. On lui a posé 2-3 questions pour la forme. Mais ce n'est pas lui.
Et la perquise?
Une nouvelle perquise chez Lecointre, tu veux dire? Tu plaisantes? Le juge Cassoret ne nous l'a pas accordé. Il nous a même tapé sur les doigts. Encore une fois, il nous a sévèrement rappelé que le dossier Julie Moscato et cette affaire étaient distincts et que nous ne disposions pas d'indices graves et concordants de culpabilité concernant Lecointre. Il est de ces magistrats qui ont un indéfectible attachement au respect des libertés, si tu vois ce que je veux dire.
Pas d'indices graves et concordants de culpabilité, répéta Gabriel. Il attrapa la main de Solène et l'entraîna vers l'escalier. Coïncidence ou pas, Lecointre ne travaille pas à l'hôtel aujourd'hui. Donne-moi son adresse.
Non, Gabriel. On ne devrait même pas être ici.
Je l'obtiendrai par moi-même. Ça va juste me faire perdre du temps. Alors donne-la moi. Que je file jeter un œil là-bas. Notre agresseur a dû avoir une peur bleue. Je verrai tout de suite si Lecointre est paniqué.
Je ne sais pas, quoi qu'il arrive, toi et moi, on ne s'est pas vus aujourd'hui.
On n'est pas venu ici. Je te dépose chez toi. Tu n'auras pas de problème.
Je me fiche des problèmes. C'est à toi que je pense. Je sais comment tu es et...
Ça ne pourra pas être pire. Devant sa détermination, elle finit par lui expliquer que Lecointre habitait à 4 kilomètres des carrières, le long de la départementale du côté d'Orniax. Quand elle s'assit côté passager et le vit démarrer sur les chapeaux de roue, avec ce même visage de traqueur que 12 ans auparavant, elle regretta de lui avoir révélé la vérité. Un fauve était lâché dans l'arène. Tout cela ne pourrait que mal finir.